Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Sentiment d'exilé dans son pays d'origine, mœurs et coutumes qui se télescopent, tiraillement entre deux cultures, autorité du père contestée, organisation de la famille remise en cause, manque de considération des anciens, recherche de ses racines, autant de questions qui taraudent toujours, depuis toujours, Karamoko, travailleur immigré qui a bâti sa vie en France. Mais au moment de prendre la retraite, il est confronté à un dilemme. Lui qui pensait toujours repartir au pays, prend conscience que la décision va être très difficile. Son entourage et les circonstances vont le conduire à réfléchir en profondeur sur la nature exacte de ce désir de retourner au pays. Et peut-être va-t-il être surpris lui-même par le cheminement qu'il devra effectuer et la conclusion qu'il en tirera. C'est ce parcours de vie que nous propose de découvrir Christine Puel dans son ouvrage « Au rythme de la Cora », paru en 2019 aux éditions Osas. Bonjour Christine Puel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parole d'auteur. Bonjour à nos fidèles auditeurs, à qui je rappelle qu'ils peuvent réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Christine Puel, peut-on dire que vous êtes une malienne de cœur ?
Oh là là, bien sûr que oui. J'y ai vécu un certain nombre d'années et quand on en est parti, j'ai eu une très très grosse nostalgie. Et la seule façon peut-être de continuer à rester dans ce pays, si accueillant, si chaleureux, c'était justement d'écrire. Parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de petites choses quand on vit au quotidien, de petites choses que l'on retient. Et donc j'ai pu les mettre par écrit et c'est sûr que ça m'a permis de continuer à être présente, non pas au Mali, puisqu'en toute façon on ne peut plus y aller, mais d'être présente avec mes personnages.
Voilà, donc cette nostalgie, on la ressent et on la comprend à travers d'abord la lecture de ce livre, et aussi quand on regarde de plus près votre bibliographie, parce que vous avez consacré un certain nombre d'ouvrages au Mali, mais on va y revenir en détail dans un instant. Auparavant, je voudrais un petit peu vous présenter à nos auditeurs. Donc j'ai compris que vous avez été enseignante, juriste et médiatrice familiale.
Oui.
J'ai compris donc que vous avez vécu assez longtemps en Afrique, je crois 10 ans au total.
10 ans, oui.
Et que vous avez eu un certain nombre de responsabilités, alors je dirais dans l'enseignement, dans l'éducation, aussi bien au Gabon qu'au Mali.
Oui.
Et j'ai cru comprendre que vous aviez été partie prenante à la fondation de l'École nationale de la magistrature de Libreville.
Oui, oh là là, il y a bien longtemps de ça, mais c'est vrai, oui.
En France, vous avez œuvré au sein du Centre d'information des droits des femmes et des familles pendant 18 ans, puis plus tard comme juriste et ensuite comme médiatrice familiale. Alors, en quoi est-ce important cette expérience-là par rapport à votre goût d'écrire?
Alors là, vous me mettez directement dans mes prochains romans. Parce que quand j'étais juriste et médiatrice familiale au sein donc, du CIDFF, je recevais des personnes pendant à peu près une heure ou une heure et demie. Et une fois qu'elles étaient parties, je notais quelques petits points. Il m'a demandé cela, elle m'a dit ceci, elle regrette, ou il voudrait faire, et en quelques 10 lignes. Et une fois que j'ai rempli tous mes cahiers, parce qu'il y avait un certain nombre de récits de vie que j'ai entendus, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Et ces récits de vie, je les ai transformés dans mon dernier ouvrage qui s'appelle Récits de vie romancés, et à partir de ces 10 lignes, j'ai écrit des petites des novellas. Donc, les personnages, je leur ai donné un prénom, des prénoms, je leur ai donné des familles, et à partir de là, mon imagination a continué et j'ai en effet des récits romancés.
Donc, cet aspect-là de votre activité est finalement le deuxième réservoir d'inspiration dans vos écrits.
Absolument.
J'ai compris que vous étiez assez intéressé depuis de nombreuses années par les ateliers d'écriture. Est-ce toujours le cas?
Oh oui, ça fait plus de 20 ans que je suis dans des ateliers d'écriture Et on se retrouve toutes les semaines. Et là, on se livre à des créations littéraires. Enfin, c'est quelque chose d'excessivement intéressant. Chacun de nous est ravi de se retrouver une fois par semaine et d'écrire avec quelques petites contraintes qu'on se donne. Parce que les contraintes, ça permet de donner un cadre et on est plus libre finalement là-dedans. Et on est toujours épaté. Parce qu'on a des contraintes d'utiliser tel ou tel mot, tel ou tel syntagme, des bouts de phrases, et puis avec un thème. Et que lorsqu'on relit devant tout le monde ce qu'on a écrit, avec les mêmes mots, le même thème, les mêmes syntagmes, et ben on trouve des choses totalement différentes. On est toujours épaté soi-même, enfin, par les récits des uns et des autres.
Et est-ce que le processus d'écriture au sein d'un atelier d'écriture est le même que lorsqu'on décide d'écrire un roman ou d'écrire un ouvrage ? Seul de son côté.
Ben, je dirais que je l'écris pas vraiment seul. C'est-à-dire, je pars très souvent des ateliers d'écriture. Le thème, ça me donne des orientations. J'ai dans ma tête mes personnages quand je suis sur un roman, mes personnages et je vois, je les fais avancer, je les fais arriver, il leur arrive des histoires et souvent c'est au cours de l'atelier d'écriture que j'imagine telle ou telle chose auquel je n'avais pas du tout pensé avant. Donc ça m'oriente, ça me permet de cheminer avec les personnages que je retrouve et que je suis quelquefois moi-même surprise. Je pensais pas faire ça, ben si il a fait ci, il a fait ça.
Est-ce que vous auriez écrit tout ce que vous avez écrit si vous n'aviez pas participé à des ateliers d'écriture ?
J'imagine, oui. Je crois que je leur dois vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est un espèce de coffret de trésor. On peut tirer les choses. Bon, certains parlent de boîte à outils, mais enfin, j'aime préférer un coffret de trésor et permet de sortir telle ou telle chose auquel on n'avait pas pensé.
Dans le cadre de ces ateliers d'écriture, vous êtes participante ou vous êtes animatrice aussi ?
Les deux, en général. Les deux, parce que c'est... Alors, ça fait au moins 10-15 ans. J'ai commencé avec des animatrices qui étaient professionnelles, jusqu'au jour où on s'est dit qu'on pouvait très bien le faire nous-mêmes. Et là, je suis dans un groupe que j'appellerais informel. On est chez les uns, chez les autres, et à tour de rôle, on fait des propositions. Et c'est une très grande richesse, parce que quand c'est une même personne qui fait toujours les propositions, finalement, c'est un peu le même genre. Alors que quand on est à tour de rôle, on est 10 dans mon groupe, là, et donc une fois sur 10, on fait soi-même les propositions. Et franchement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Alors, j'attire l'attention des auditeurs sur le concept, sur le principe d'atelier d'écriture, puisque moi, je pratique aussi. C'est effectivement une manière de se lancer dans l'écriture, mais je dirais peut-être davantage en premier lieu, vraiment dans la créativité.
Oui, absolument. Absolument, parce que, par exemple, notre groupe, c'est un groupe uniquement de bienveillance. Et donc, on ne va pas dire « Ah, ben, t'as mal écrit » ou « t'as fait ça ». Non, c'est chacun a écrit à sa manière, plus ou moins bien, mais peu importe, on est content d'avoir sorti de notre esprit, de notre imagination, telle ou telle chose, qu'on ne savait pas avoir en soi, en fait.
Donc, j'encourage nos auditeurs à continuer à lire, évidemment, mais si ils nous entendent, peut-être faudrait-il qu'ils essaient les ateliers d'écriture. Alors, revenons à votre première source d'inspiration, qui tourne donc autour de la nostalgie du Mali. Alors, vous avez écrit ce qu'on pourrait appeler une saga.
Oui,
qui est composé de 6 ouvrages. 6 ouvrages qui traitent du Mali. Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents dans cette saga ?
Nécessairement. Mmh. D'abord, je dirais qu'il y a des personnages récurrents. Parce que un personnage qui passe dans l'un de mes romans, on peut le retrouver dans un autre roman étant comme personnage principal. Et inversement, un personnage principal, il disparaît pas. On le voit réapparaître au rythme de la Cora. On voit par exemple deux personnages qui réapparaissent, alors que Ami, c'était en tant qu'enfant, on l'a vu dans Protection du Cori, et en tant qu'adolescente et jeune femme, on l'a vu à l'ombre des Caïl Cédra. Donc, et là, elle va, au rythme de la kora, elle apparaît en tant qu'enseignante, enfin professeure, institutrice, puisque c'était un de son désir de le faire, elle est devenue institutrice. Une autre personne, Madame Alassane. Madame Alassane, c'est la sœur de Karamoko dans Au rythme de la kora, qui est le personnage principal. C'est sa sœur qui vit donc au Mali. Et on l'avait vue déjà dans À l'ombre des Caïlcédras en tant qu'elle était devenue écrivain public. Et d'ailleurs, Karamoko a donné le nom de sa sœur, enfin, en tant que prénom, l'a donné pour son premier fils qui est né en France. Parce qu'il a d'autres enfants qui sont nés au Mali. Ça, c'est encore une autre chose.
Je crois que aussi dans cette saga, il y a pas mal, en termes de personnages récurrents, des couples mixtes également.
Oui, beaucoup.
C'est un point qui vous tenait à cœur ou qui vous permet d'illustrer une certaine réalité ?
Ben oui, parce que je trouve que c'est une très grande richesse d'un couple mixte. J'aime beaucoup le Mali, franchement, mais je suis pas africaine. Si je suis africaine de cœur, je suis pas véritablement. Et donc, je réagis en tant que tout babou, c'est-à-dire occidentale, européenne, et pas africaine. Et donc, les couples mixtes me permettent d'essayer de comprendre, d'ailleurs, au cours de mon écriture, comment celui du couple qui est malien peut réagir, et comment celui qui est européen va pouvoir aussi réagir par rapport à son attitude.
D'accord. Et en toile de fond, dans tous ces ouvrages, il y a évidemment la diversité des cultures qui apparaît oui. De manière évidente.
Je dirais que mon personnage principal, c'est le Mali. Et puis, parce que la vie dans les villages n'a pas beaucoup changé. Dans les villes, si, absolument, mais dans les villages, on retrouve, même 20 ans après, on retrouve un peu le même mode de vie.
Donc revenons au rythme de la kora. Alors est-ce que vous pourriez donner quelques explications à nos auditeurs sur le choix de ce titre et nous expliquer naturellement ce qu'est la kora ?
Oui. Alors chacun de mes titres, je vais vous les citer ?
Parce que
ça a une connotation quand même très malienne. Donc sur le fleuve une calebasse, un dromadaire dans le cœur, le lézard regardait l'étoile, la protection du kori, à l'ombre des caïlcédras et au rythme de la kora. Donc, ils ont tous un lien net avec la calebasse, la kora, le kori, le caïlcédra. Et donc, c'est une saga à travers même ces titres.
Oui, c'est une saga à travers les titres, effectivement. Et dans l'ouvrage qui nous intéresse, c'est la kora qui est pris comme support de l'histoire. Si
absolument, mais oui, parce que Karamoko, qui vit en France, est arrivé vers l'âge de 25 ans en France. Il se retrouve d'abord à Montreuil, à Paris. C'est un quartier qui a beaucoup d'Africains. Et il est tout seul. C'est difficile. C'est surtout très, très froid. Ce qu'il a ressenti la plus grande difficulté, ça a été le froid. Et donc, la kora va lui permettre, cet instrument de musique, va lui permettre peut-être de se sentir moins seul. Alors, la kora, c'est une calebasse qui a été coupée en deux, sur laquelle il y a une peau, souvent de chèvre, et il y a une grande hampe avec 21 cordes. Et surtout, ce que je trouve bien dans une kora, c'est que l'artiste, le chanteur, communique avec la kora. C'est-à-dire, je veux dire par là que une guitare, on la pose contre soi et on frotte les cordes, alors que la kora, elle est devant soi. Et donc, c'est vraiment un moyen de communiquer avec la musique.
Mais la kora, ce n'est pas simplement un instrument de musique.
Oh non, oui.
Et c'est un instrument qui a une utilité domestique.
Absolument, parce que c'est une cucurbitacée, donc plus ou moins grosse, qu'on va évider, qu'on va faire sécher, et elle peut servir à la fois de petite cuillère, de bol, dedans on va mettre, quand elle sera plus grande, enfin plus grosse la calebasse, on va faire baigner le bébé, on va laver le bébé là-dedans. Elle peut servir donc il y a la calebasse au féminin qui sert aux travaux domestiques, et puis il y a la calebasse au masculin qui va devenir donc l'instrument de musique, la kora. Voilà.
Donc ceci étant posé, vous allez dans ce livre nous faire vivre le parcours de vie de Karamoko. On va voir quels sont les défis qui se posent à lui. Et en épigraphe dans votre livre, vous citez une phrase qui est la suivante: écrire de la fiction, c'est comme se souvenir de ce qui n'a jamais eu lieu. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette phrase?
Je la trouve très, très vraie. La fiction, c'est l'imagination, c'est dans la tête ce qui peut se passer à partir d'éléments concrets et on peut parler de choses qui n'ont jamais eu lieu ou qui ont peut-être eu lieu, on ne sait pas.
Voilà. Ou qui auraient pu avoir lieu. Alors, ce qui nous fait faire la connexion que j'ai faite en lisant, de la définition du roman par les frères Goncourt. Je ne sais pas si vous la connaissez. Le roman est de l'histoire qui aurait pu être. Donc vous voyez, on est tout à fait dans la même conception des choses. Je voulais aussi faire montrer aux auditeurs la manière dont la force avec laquelle le Mali, je dirais, vous tient encore à l'heure actuelle. Vous écrivez: je ne parviens à écrire que sur l'Afrique, quel que soit le livre, elle est mon personnage principal, ce que vous venez de nous dire. Durant 10 ans, j'ai beaucoup observé et j'ai accumulé une certaine connaissance de la matière sur la culture du Mali, la vie dans les villages. Je n'ai pas épuisé ma nostalgie de l'Afrique et comme je la ranime en permanence, j'ai encore beaucoup à écrire. Mais néanmoins, vous avez réussi à écrire autre chose que sur le Mali.
Mais, je ne sais pas comment vous avez eu ça, mais c'est vrai, bon. Alors, c'est-à-dire après avoir vécu longtemps au Mali, on est rentré en France, on est rentré à Toulouse, et ensuite, quelques années après, on est reparti au Mali tous les 2 ans à peu près, où là j'ai été accueillie merveilleusement par mes élèves, puisque j'étais enseignante à l'ENA, donc mes élèves qui sont devenus magistrats pour la plupart ou avocats, et chaque fois que je revenais là-bas, j'acquérais de nouveaux matériaux. Et puis, on aurait dû y aller en 2012, et puis en 2012, il y a la guerre, et depuis 2012, on n'y est plus allé. Nous n'y sommes plus retournés, malheureusement. Et je pense que mes matériaux se sont épuisés, et puis quand même six ouvrages là-dessus, je pense que c'était...
Oui, il faut tourner la page à un certain moment.
Mais je me rends compte que quand j'écris des nouvelles dans des concours, des appels à écriture, etc., pour moi, c'est plus facile d'écrire sur l'Afrique.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que le plus grand défi auquel avait dû faire face Karamoko, c'était le froid quand il est venu en Europe. Et il y a aussi autre chose qui a été très difficile pour lui, c'est l'éloignement de la famille, qui renvoie à l'importance de la famille au Mali. Et donc, je vous propose d'écouter une chanson de Zal Sissoko.
Sissoko.
Qui interprète une chanson qui s'appelle Mama Chérie.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Mama chérie, tel est le titre de la chanson de Zal Sissoko que nous venons d'écouter. Christine Puel, quel est ce chanteur? Qui est-il?
C'est un griot. C'est un griot sénégalais. Et donc là, il rend hommage à sa mère, mais aussi à toutes les femmes. Donc j'ai peut-être choisi ça un peu pour ça aussi.
Vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est un griot?
Oula, c'est très long. On va peut-être traduire griot par un conteur. Très souvent, ils sont appelés lors de grandes fêtes, les mariages, ou les enterrements même aussi. Et là, ils vont dévider tout l'arbre généalogique. Des gens, donc ils ont une très très grosse connaissance de la famille. Et d'ailleurs, ça me fait penser à tout à fait autre chose, mais quand il y a une dispute entre deux personnages, enfin entre deux personnes, quelquefois on les oblige à remonter leur arbre généalogique jusqu'à ce qu'ils retrouvent un ancêtre commun. Et du coup, là, il n'y a plus de querelle. Ça arrête la dispute. Et donc le griot est là pour raconter les bienfaits, raconter les hauts faits de tel ou tel personnage dont c'est la fête ce jour-là, etc. Et il le fait souvent par la musique.
Et alors donc nous avons entendu donc Zal Sissoko qui jouait donc de la kora. Il y avait d'autres instruments dans ce morceau? Parce que j'ai compris qu'il était, il utilisait la kora et la harpe luth traditionnelle.
Non, c'est la kora, c'est ce qu'on appelle la harpe.
C'est la harpe, d'accord.
En revanche, il peut y avoir, moi j'ai assisté à Toulouse à des concerts entre un autre Sissoko, Balagué Sissoko, et Vincent Segal. C'était kora et violoncelle qui se parlaient, qui se discutaient. C'était vraiment génial.
Ah oui.
Donc ça va bien ensemble.
Donc, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Christine Puel pour son ouvrage « Au rythme de la kora » paru en 2019 aux éditions Ozas. Alors, Christine Puel, il y a un personnage principal. Alors, j'ai compris qu'en premier lieu, il s'agissait du Mali. Et en second lieu, il y a Karamoko Bagayoko.
Oui.
Alors, qui est ce monsieur?
Ben, Karamoko, c'est son prénom, et Bagayoko, c'est le nom de sa de famille, et ça montre qu'il est, c'est un soninké, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Mali, et donc les soninkés, et là aussi, ça, je passe au-dessus, mais suivant l'ethnie à laquelle on appartient, on peut avoir on peut faire des plaisanteries avec telle ou telle autre ethnie, mais pas toutes. Par exemple, les Bagayoko peuvent être reliés aux Diawara. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle les cousinages à plaisanterie. Et là, on peut dire des choses très fortes, mais comme c'est sous forme de plaisanterie, on ne peut pas mal réagir.
Alors, revenons sur ces cousinades ou cousinages à plaisanterie. C'est organisé systématiquement, c'est organisé spontanément. Comment ça se passe?
Non, c'est spontané. C'est suivant l'ethnie que l'on a. Il y a le Peul qui va se moquer du bozo et on va le traiter de buveur de lait puisque le Peul c'est un berger, donc il boit du lait. Et l'autre, il va répondre de quelque chose sur l'ethnie. Et je vous dis, ils grincent des dents quelquefois, mais avec le sourire, puisqu'on ne peut pas, on peut pas se disputer alors que c'est un cousinage à plaisanterie.
D'accord. Alors, Karamoko, quelle est sa situation au début du roman?
Donc, lorsqu'il arrive en France, donc il y a quand même de nombreuses années déjà, il va trouver un hébergement donc à Montreuil, et là il va trouver un travail, parce qu'à cette époque, enfin dans ces temps-là, on pouvait trouver relativement facilement du travail à faire. Et puis il va pas être tout seul isolé, puisqu'il rencontre beaucoup de ses congénères. Et c'est justement autour de la Cora, souvent, qu'ils vont se retrouver. Ils vont avoir ce qu'on appelle une colocation, en quelque sorte. Enfin, dans des lieux pas très, très, quand même, pas très sains, enfin, pas très propres, puisque quelquefois, c'est la couche, elle est en 3-8, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il va dormir, il va rentrer dans le logement sur la couche pour pouvoir dormir 8 heures, et ensuite, il va être éjecté, et ce sera quelqu'un d'autre qui prendra sa succession. Voilà.
Au cours du roman, on comprend qu'il a été marié, il a une épouse au pays, mm-hmm. qui est restée au pays.
Oui.
Et on comprend aussi qu'il a une vie assez isolée, qui n'est pas forcément très, très agréable. Et donc, il va envisager, et il va d'ailleurs se marier et oui. fonder une seconde famille.
Oui.
Alors, comment ça se passe ? Comment il a rencontré sa seconde épouse?
Alors, effectivement, sa première épouse, qui n'est pas une femme très sympathique et qu'il a laissée au village, et qui revoit tous les 2 ans, donc ce qui fait qu'il a cinq fils, puisque ça fait à peu près 10 ans qu'il est reparti. Quand c'est autour de lui, ses co-religionnaires s'en rendent compte qu'il a vraiment besoin d'une femme. On lui propose plusieurs femmes, et lorsqu'il trouve Aliouna, finalement, c'est ce qu'on appelle la bonne, celle qui lui convient. Alors Aliouna, elle est aussi d'origine malienne, mais elle ne connaît pas le Mali. Elle est arrivée en France à bébé, et donc et c'est une femme qui est à la fois très discrète et en même temps très, très forte. Et au fur et à mesure, Karamoko se rend compte qu'il doit s'appuyer sur elle et vraiment avoir confiance dans ce qu'elle peut lui dire. Ce qui, au départ, Karamoko, comme beaucoup des gens de son âge, enfin, est assez macho. Et donc, c'est lui, l'homme, qui doit décider. Mais on sait bien que sur l'oreiller, il se passe beaucoup d'autres choses. Et là, il est assez intelligent pour comprendre qu'il doit se fier à la parole d'Aliouna, qui est une femme raisonnable, sensée. Tous les deux, ils vont avoir 3 enfants. Alassane, donc dont le prénom, c'est le nom de sa sœur, Madame Alassane. Zou, c'était vraiment ce qu'ils appellent un coquin. Quand j'étais au Mali, j'étais très étonnée. Souvent, on disait, oh là là, lui, c'est un coquin. Mais c'est un coquin, c'est-à-dire un filou. Enfin, vraiment, quelqu'un dont il faut se méfier un petit peu. Il fait beaucoup de bêtises, mais il va grandir. Il se heurte beaucoup à son père, à tel point d'ailleurs que Karamoko le menace de l'envoyer au Mali définitivement. Et ça, Zoumana ne veut surtout pas, parce qu'il connaît un peu le Mali, mais il y allait pendant les vacances. Donc pour lui, le Mali, c'est un lieu de vacances, c'est sympa, etc. Mais y vivre et puis rentrer dans le village, c'est vraiment impensable. Donc il va se faire un petit peu aider par sa mère, qui comprend un petit peu ce que ressent ce jeune. Mais c'est vrai qu'il y a très souvent des heurts entre Karamoko et Zoumana. Et puis il a une fille, la seule fille de toute la fratrie, puisqu'il a quand même 5 fils qui vivent au Mali, 2 en France, et Yatassaï. Et Yatassaï, c'est sa fille, disons sa petite fille chérie, et qui va lui apprendre beaucoup de choses aussi, et qui va le faire évoluer, et évoluer dans le bon sens, d'assouplir. Et il va comprendre grâce à elle qu'avoir une fille, c'est quelque chose de plutôt merveilleux. Alors qu'au départ, c'est pas évident, avoir un fils, c'est bien. Ça pose dans la société. Mais avoir une fille, ben là, il découvre que c'est drôlement bien.
Il y a un point particulier très intéressant, c'est la manière dont sont choisis les prénoms. Et donc, les prénoms de ces trois enfants. Et en particulier, le prénom de la fille.
Yatassaï. Mais ça, il n'y a que lui, Karamoko, et vous, lecteurs, qui savez pourquoi il a choisi ce prénom. Alors, je reprends. Alassane, donc, c'est le prénom, c'est le nom de sa sœur qu'il aime beaucoup et donc il lui a donné. Zoumana, c'était sa femme, Aliouna, qu'il a choisie et qui est un prénom d'un oncle. Et Yatassaï, donc, c'est lui qui a choisi. Yatassaï. Et donc... C'est une histoire, mais je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faut lire le livre aussi.
Alors, tout à fait. Si vous voulez connaître cette histoire, c'est-à-dire l'origine du prénom de, de la fille. Il faut effectivement lire le livre. Et ceci est d'autant plus important que ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie à des souvenirs, ça renvoie à du vécu. Et donc, ça signifie que le prénom, ce prénom en particulier, n'a pas été choisi au hasard du tout.
Absolument. Voilà. Mais même sa femme, Aliouna, ne le sait pas. Donc, il garde ça pour lui.
Alors, Karamoko, il vit en France depuis un certain moment. Il s'est établi, il a fondé une seconde famille. Mais le défi auquel il est confronté, c'est il est tiraillé entre deux cultures.
Absolument, oui.
Et que la gestion de cette deux cultures, son positionnement face à ces deux cultures, lui pose quand même des problèmes.
Absolument. Je vais vous raconter un petit peu sur l'autorité parentale. Alors, en Afrique, le bébé est roi. Ça, c'est clair. Il vit les deux premières années de sa vie dans le dos de sa mère, collé à elle et ne la quittant pas. À l'âge de 2 ans, elle le pose, parce que souvent, les relations entre le mari et la femme cessent pendant la grossesse et cessent jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et ensuite, on laisse le bébé, enfin de 2 ans, et puis bon, elle va souvent devenir de nouveau enceinte. Et donc, à partir de là, c'est l'enfant qui doit se débrouiller, c'est le père qui prend un petit peu, et le père, il frappe. Pour élever son enfant, moi j'ai vu avec un bâton, il course l'enfant qui fait des bêtises et vraiment il frappe très très fort. Et ça c'est dans la culture, donc bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Seulement quand on est en France et que l'enfant qui a 7-8 ans arrive à l'école avec des bleus, etc., là les services sociaux interviennent. C'est ce qui s'est passé pour Karamoko. Karamoko a été très surpris. Les services sociaux sont arrivés chez eux en les menaçant même de prison, etc., en disant mais vous avez frappé votre enfant, alors que pour Karamoko, c'est quelque chose de... Bah, c'est comme ça qu'on l'élève. Et donc, devant cette menace de se retrouver en prison, il dit, bon, ben d'accord, alors je ne bouge plus. Je ne fais plus rien, c'est la mère qui va s'en occuper et moi, je ne fais plus rien. Et c'est difficile parce qu'après, il va y avoir un retour en disant, ah, mais les pères sont des missionnaires, ils ne s'occupent pas d'enfants. Mais c'est parce que, à mon sens, c'est quelque chose de culturel, on ne s'est pas compris. On n'a pas compris ce que signifiait autorité parentale, ce que signifiait éducation. Et donc, Karamoko, c'est pour ça peut-être que ça se passe mal avec Zoumana, parce que la première fois qu'il l'a frappé, c'était normal. Puis après, il ne les touche plus, mais bon, il ressent en lui quand même une espèce de... pas de découragement, mais il est furieux. Enfin, il veut plus toucher à son fils parce qu'il y aurait des conséquences trop graves. Mais n'empêche qu'il se trouve que l'enfant est mal élevé.
Donc, c'est un exemple du choc de ces deux cultures,
absolument,
on peut dire.
Oui.
Il y a aussi peut-être un deuxième exemple, c'est la valeur de la parole des anciens qui est davantage reconnue dans la culture malienne que dans la culture occidentale. Et ça lui pose aussi un problème.
Oui, et là, c'est par rapport à son fils aîné, Lamine, qui habite au Mali et qui, lorsqu'il a à peu près 20 ans, vient voir son père en France. Ils se connaissent très peu. Et Lamine est très dérouté par, justement, l'éducation, disons, française de ses demi-frères et sœurs. Et il trouve que son père n'agit pas pour se faire respecter. Et donc, si toi, on ne te respecte pas, moi, le frère aîné, on ne va pas aussi me respecter. Or ça, je tiens à être respecté. Et donc, entre le père et le fils aîné, là aussi, il se passe des choses très, très difficiles. Et le voyage de Lamine n'est pas une réussite, disons.
Alors, c'est qui tente à prouver qu'effectivement, le défi... Et pour Karamoko, mais il est aussi, il a d'énormes conséquences sur son entourage familial parce que l'ajustement entre les deux cultures, il ne peut pas être fait de manière unilatérale. Il concerne tout le monde.
C'est difficile, oui. Voilà. Alors, je crois que sa femme Aliouna a quand même un grand rôle. Puisque elle a toujours été en France, elle a été élevée, disons, à la française. Et elle, quand on lui dit « femme, écoute-moi, tu dois m'obéir ou tu dois m'écouter », Aliouna répond « attends, on n'est pas en Afrique, là, on est en France et donc on est à égalité, il ne faut pas non plus exagérer ». Et petit à petit, Karamoko va le comprendre. petit à petit, hein, c'est pas tout de suite bien sûr, mais c'est au fur et à mesure des années qu'il voit que sa femme a très souvent raison et donc il va accepter cela. Mais c'est pas facile pour tout le monde, évidemment.
Alors dans ce contexte d'adaptation et de positionnement par rapport aux deux cultures, il n'en reste pas moins que dans la famille, il y a de l'amour. Et vous avez choisi le thème de l'amour pour notre deuxième pause musicale avec une chanson de Candia Kouyaté et vous nous, qui s'appelle Kandali. Ou encore, alors elle est connue sous le nom aussi de Zouk Mandingue.
Mandingue,
oui, voilà.
Zouk Mandingue.
Nous écoutons.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Kandali, interprété par Candia Kouyaté, qui, Christine Puel, est également une griotte, elle aussi.
Une griotte. C'est plus rare, mais il y en a maintenant. Ah. Oui. Les joueuses de cora aussi. Mais elle a une voix assez extraordinaire. C'est vrai qu'à chaque fois que je l'entends, je retrouve le Mali, je retrouve la chaleur. Vous savez, le matin, on se réveille, il fait à peu près frais, et au fur et à mesure de la journée, la chaleur va monter, et le ciel va rester immuablement bleu. Je retrouve les odeurs très variées, les odeurs des marchés, avec le poisson qui se mêle aux épices, au beurre de karité, aux arachides. L'odeur de l'essence des gaz d'échappement des voitures, l'odeur épouvantable des pneus qui brûlent, des fossés qui sont comblés de détritus, mais aussi les parfums on fait d'une boisson qui s'appelle le bissap, qui est très très bon, et des bougainvilliers. Je retrouve donc les couleurs aussi, les couleurs, avec la couleur ocre qui, à mon sens, caractérise l'Afrique, en tout cas le Mali, la couleur ocre, avec la couleur des boubous, des foulards, la couleur, toutes les couleurs possibles, et le ciel toujours bleu, n'oublions pas. Je retrouve également les bruits, il y a beaucoup de bruits, hein, les voix humaines. C'est très curieux. Quand des gens se croisent, se connaissent, se croisent, ils se parlent, bonjour, etc. Et puis ils continuent à se parler sans tourner la tête et chacun s'en va de son côté en tournant. Donc ça fait quand même beaucoup de bruit aussi. Il y a les chants, il y a le claquement des mains quand une danse va débuter ou bien aussi le tapement du pilon quand on dans le mortier pour écraser les grains de mil ou de sorgho, le martèlement du tissu qu'on appelle le basin, le bêlement des chèvres, le braiement des ânes, le cote-cote des poulets qui sont innombrables, et puis dans les villes, les klaxons incessants. Donc je retrouve la chaleur, les couleurs, les odeurs, je retrouve aussi le mouvement, parce que le peuple malien était vraiment un peuple en mouvement. Les gens marchent, les gens avancent. Et les mouvements, c'est l'homme qui, d'un geste négligent, va réajuster son boubou. C'est la femme ou la petite fille qui va monter le bras pour pouvoir porter le seau qu'elle a sur la tête. C'est aussi le geste que fait les mamans, que font les mamans sans cesse, de réajuster le boubou parce que derrière, il y a le pagne qui retient l'enfant. Et donc, c'est vraiment tout cela me permet cette voix. Cette voix me permet de me retrouver au Mali, de me retrouver, de retrouver aussi de ce dont on a parlé tout à l'heure, les objets, la calebasse, les bouilloires qui sont rayés rouges ou rayés vert, blanc en plastique, les pilons, les corilles sont des coquillages, les corals, les instruments de musique. Et donc tout ça, je me retrouve dans cette voix-là.
Et donc cette musique a un rôle de grand révélateur pour vous de tout ce que vous y avez connu, des sensations, des odeurs.
Absolument, oui.
Et des émotions. Alors, ce que je voudrais préciser aux auditeurs, c'est que, certes, cette musique est un magnifique révélateur, mais par votre texte, dans vos descriptions, on y est en Afrique. Vous nous faites sentir les choses, vous nous les faites ressentir. Je dois même dire que à certains moments j'ai presque eu chaud.
Hein, oui,
on sent que vous dépeignez très bien l'Afrique. On y est totalement. Alors je voudrais qu'on revienne sur votre livre. Par rapport au grand message qu'il traite et qu'il fait passer, donc le premier message, c'est ce fameux retour au pays, et j'aurais tendance à dire retour au pays avec un point d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est que Kara Moko, comme beaucoup de ses compatriotes, se pose la question. Alors, quelle est leur problématique par rapport au retour au pays?
Oui. Je pense que chacun des hommes, surtout des hommes qui sont partis en Europe pour travailler, ont gardé en eux, dans leur cœur, leur pays. Et donc, par exemple, par la kora, par les instruments de musique, ils peuvent y retourner. Mais leur idée, c'est mon pays, comme pour tout le monde d'ailleurs, je voudrais y revenir. Mais Kara Moko, par exemple, se heurte au fait que sa femme Aliona et ses enfants qui sont nés en France, ils veulent pas, eux, retourner au pays. Alors, c'est une chose qui arrive malheureusement pour beaucoup de familles comme ça. On parle aussi des Chibani. Les Chibani, ce sont en Afrique du Nord, les gens qu'on a fait venir, qui ont travaillé longtemps, qui voudraient retourner au pays et qui peuvent pas parce que s'ils veulent toucher une retraite, il faut rester au moins un certain temps en France. Et donc ils font des voyages aller-retour et c'est quasiment leur retraite qui part dans les voyages. Enfin, et donc Kara Moko se trouve vraiment comme beaucoup d'entre eux devant cette difficulté. Je voudrais rentrer, mais ma famille ne veut pas, je comprends un petit peu, mais qu'est-ce que je vais faire à la retraite? J'aurais aimé aller dans mon village ou au moins dans une grande ville que je connais, être avec parmi les miens. Voilà le dilemme que beaucoup de travailleurs étrangers connaissent. Je pense que c'est quelque chose de très profond et de vrai. Enfin, je veux dire, ça arrive à beaucoup, beaucoup de personnes qui ont travaillé 20, 30 ans en France et qui aimeraient rentrer.
Et alors donc, ces personnes sont partagées effectivement entre la mémoire, le souvenir de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils auraient pu vivre en restant au pays, et puis cette pression de l'environnement familial qui est occidentalisé, effectivement, et qui les font réfléchir. Alors, dans ce roman, Kara Moko est partagé, pèse le pour et le contre, et en lisant le roman jusqu'à la fin, on verra comment il trouve une solution une solution qui est une prise de décision basée sur une philosophie de vie et sur un parcours de vie complet.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on voit que dans la solution qu'il va adopter, eh bien, il fait la synthèse des deux cultures et il fait la synthèse de son parcours de vie, quelque part.
Absolument. Mais on ne vous dévoilera pas. Mais pour moi, c'est à chaque fois, dans chacun de mes romans, c'est un petit peu ça, c'est l'intelligence du cœur. On trouve toujours une solution hein, quand on a le respect des autres, le respect de soi-même, et que on veut arriver à quelque chose, on y arrive par l'intelligence du cœur. Et je pense que c'est ça qu'Aramoko a trouvé. Alors, les auditeurs peuvent lire encore une fois cet ouvrage, et dans chacun de mes ouvrages, je crois qu'on retrouve ça, cette intelligence du cœur, où on peut être, quand on rencontre aussi ces couples mixtes, où habiter, où vivre.
Exactement.
Et oui. D'ailleurs, je vais vous dire un petit peu sur À l'ombre des Cahil Cédra, où les deux personnages, il y a le personnage Placide, qui est un enfant métisse et qui vit au Mali. Quand il rencontre Aminetou Ami, qui elle est malienne mais vit en France, et qu'ils veulent vivre ensemble, où vont-ils vivre? Et c'est vraiment une question qui va se poser un petit peu tout le long de l'ouvrage.
Alors, donc nous recommandons aux auditeurs de découvrir la décision, je dirais, d'ordre philosophique, hein, n'ayons pas peur des mots, de Karamoko. Au cours de ce roman, au-delà de la description des personnages, des émotions, des caractères et des paysages aussi, on découvre les us et coutumes du Mali et un certain nombre d'expressions, souvent très, très évocatrices. Alors, je voulais que vous nous expliquiez que signifie le mot « cadoté ».
Alors, c'est très imagé. Le vocabulaire des Africains est souvent très imagé. Cadoter, c'est faire un cadeau, hein. C'est normal. Enfin, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense à autre chose. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Oh, je me suis posée. En fait, je me suis reposée. Par exemple. Ouais. Après, j'emploie aussi quelques mots. Inisogoma, bonjour. Ikakene, comment ça va? Enfin, quand on se présente, il y a tout un échange très, très long pour dire Ikakene, comment ça va? Sorote, sorosite. Enfin, Ikakene, comment vas-tu? Et comment va ton père? Et comment va ta mère? Et comment va la famille? Enfin, c'est comme ça qu'on se salue chaque fois. Bon, après, si on se connaît, qu'on dira simplement bonjour le matin, on se dira Inisogoma. Après, on emploie le mot diatigia, qui veut dire la bienveillance, enfin, le recevoir quelqu'un de façon, oui, c'est ça, bienveillante. Diagia, ah, c'est bien dommage. Oui, enfin, il y a des expressions comme ça qui sont utilisées, mais souvent, pour revenir à le mot cadoté, ils utilisent, je crois, de façon très subtile, des mots qui nous surprennent, mais en fait qui sont très, très justes.
Parce que très imagé. Et par rapport à la prise de repos, vous disiez se poser, on rencontre dans le roman l'expression « je nécessite du repos ».
Voilà, oui. Ben oui, ils ont des... Ou bien, quand ils parlent, au lieu de dire « tu m'injuries », c'est que ta bouche sort, qu'est-ce que sort ta bouche, ou t'es ta bouche. T-A-I-S, t'es ta bouche.
Et alors, j'ai rencontré un autre verbe qui est le verbe « se cervotiser ».
Mais ce sont des expressions que j'ai entendues. Cervotiser, là aussi, cerveau. Non, mais qu'est-ce que ton cerveau imagine, ou tu vas t'occidentaliser, donc te cervotiser, te rendre ton cerveau de façon occidentale. Enfin, voilà, quoi. Mais il y a beaucoup, oui. J'aime bien parce que c'est, comme on dit, c'est très imagé, et puis c'est réel, quoi. Enfin, ils n'ont pas tort.
Christine Puel, un grand merci pour nous avoir fait voyager au rythme de la Kora, pour nous avoir fait découvrir le Mali et pointer du doigt un certain nombre de problématiques qui peuvent être douloureuses pour les intéressés.
Et réelles, oui. Voilà. Je voudrais simplement ajouter, je suis éditée aux éditions Osas.
Voilà, alors je vais le préciser à nos auditeurs. Donc, je rappelle que l'ouvrage de Christine Puel s'intitule « Au rythme de la cora », qu'il est paru en 2019 aux éditions Osas et qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies, naturellement. Merci à vous, Christine Puel. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Et merci à Christophe Aubry, à la technique.